Santé.
C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes avec l'émission C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. Les jeunes filles vivraient leur puberté de plus en plus tôt. On parle de 10, 9, parfois même 8 ans. Un phénomène auquel s'intéressent davantage, un petit peu plus du moins, les scientifiques, mais qui est très peu documenté, notamment au Canada. Par contre, ça fait l'objet d'un documentaire intitulé « Grande fille » signé par Hélène Choquette. Et la journaliste Sophie Allard, elle que vous pouvez lire dans la presse, a rencontré Hélène Choquette. Elle a fait un retour sur cette rencontre-là, oui, dans un article publié le 7 octobre dernier. Elle va nous en parler. Également, Sophie Allard a rencontré des médecins, des spécialistes, à savoir, est-ce qu'on exagère la nocivité des gras saturés? C'était dans un article publié le 14 octobre. Elle nous fera un retour également sur cet article. Mais d'abord, le désir d'être plus large, d'avoir plus de muscles, c'est une façon un petit peu poétique de parler d'un trouble alimentaire, en fait, du moins un trouble alimentaire qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, la bigorexie, dont on parle encore très peu, mais on va tenter de mettre la lumière, de faire la lumière sur cette maladie-là avec Marilène Dion, elle qui est coordonnatrice chez ANEB Québec. Bonjour Marilène, coordonnatrice clinique. J'aurais dû bien le dire chez ANEB Québec. J'avais envie tout d'abord de faire un petit retour sur la bigorexie, peut-être un petit peu la source. On le sait, on l'observe de plus en plus, et ce depuis, quelques années. Les médias, que ce soit par la publicité, que ce soit par le cinéma, que ce soit, par la mode, l'industrie de la mode, véhiculent des images où l'on peut voir des corps, entre guillemets, idéaux, des modèles de corps, que ce soit des corps très, très minces pour les femmes et très, très musclés pour les hommes. Et pour être très musclé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'entraîne de façon excessive. C'est une façon un petit peu de décrire ce qu'est la bigorexie, mais j'imagine qu'il y a d'autres façons aussi d'en parler, de donner une signification à ça, la bigorexie.
Mm-hmm, tout à fait. Quand on parle de bigorexie, on peut l'appeler aussi sous d'autres appellations. On fait référence à une dysmorphie musculaire et également à de l'anorexie inversée.
OK.
Hein, anorexie, on sait un peu mieux c'est quoi. Hein? C'est une distorsion liée à la perception de son image corporelle qui nous amène à vouloir perdre du poids. Quand on parle de bigorexie, on parle également d'une distorsion de son image corporelle qui va amener à mettre en place certains comportements dans l'objectif de prendre de la masse musculaire. Et ça va s'insérer dans le style de vie, dans le quotidien, et ça va prendre de plus en plus de place, voire devenir presque obsessif.
Quand on pense à prendre de la masse musculaire, on a l'impression que l'on s'adresse qu'aux hommes. Mm-hmm. Est-ce que ça touche que les hommes, la bigorexie?
On a très peu d'informations sur le sujet. Il y a peu d'articles scientifiques et de recherches pour l'instant. Mais oui, effectivement, c'est un trouble de comportement alimentaire qui touche principalement les hommes et les gens qui se retrouvent dans les milieux sportifs. Mm-hmm. Mais on retrouve, par contre, des femmes. Je pense que c'est important de le mentionner aussi.
Bon, maintenant, je le disais en introduction, trouble alimentaire, mais c'est pas clair pour toutes les organisations. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé traite la bigorexie comme un trouble alimentaire, mais pour d'autres organisations, c'est pas le cas.
Si on fait référence au manuel de critères de diagnostic de santé mentale, la bigorexie, ça fait partie des troubles de comportement alimentaire non spécifiques. C'est une catégorie de troubles alimentaires qui sont pas encore classifiés, souvent parce qu'ils sont trop récents, mm-hmm. justement, mm-hmm. Comme c'est le cas pour la bigorexie.
Donc, trop récent, encore là, on n'a pas de notion, on ne sait pas depuis mm-hmm. quand. Depuis quand on parle, grosso modo, vous, chez ANEB Québec, de bigorexie?
Ah, mon Dieu, c'est assez...
C'est assez récent.
C'est assez récent. C'est certain que depuis les débuts 2000, là, avant ça, on n'en parlait pas vraiment.
Mm-hmm. Et les causes? Bon, je parlais des médias. Les médias mm-hmm. qui nous bombardent d'images sur des idéaux à atteindre. Est-ce qu'il y aurait d'autres causes?
C'est touché de parler de causes qui vont avoir un effet direct sur le développement du trouble. On parle davantage de facteurs, mm-hmm. de facteurs environnementaux, familiaux, psychologiques. Puis ça va faire en sorte que l'individu va développer une certaine fragilité. Ça ne veut pas dire qu'il va développer le trouble, sauf que ça va le mettre en position... qui va être plus vulnérable advenant le cas où il va être exposé à certaines situations-là et après ça, de développer le trouble. Chose certaine, c'est que l'insatisfaction liée à l'image corporelle, ouais. c'est le principal facteur qu'on retrouve qui va amener une personne à le développer, ce trouble-là.
Même si on n'a pas beaucoup d'informations sur la bigorexie, est-ce que c'est possible de répertorier qu'est-ce qui amorce finalement cette maladie-là? Comment ça débute?
Mm-hmm. Au niveau de la bigorexie, c'est un peu comme tous les troubles de comportement alimentaire, c'est très sournois. Donc, ça va partir mm-hmm. de l'insatisfaction par rapport à son corps. Là, en l'occurrence, on parle de la masse musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On met des actions en place. Donc, on s'entraîne.
Mm-hmm.
C'est tout à fait sain, hein, s'entraîner.
Mais oui,
qu'on
c'est
se
ça,
le dise.
On se dit, c'est quoi le problème?
Exactement. Le problème, en fait, s'insère à partir du moment où, là, on s'entraîne, on fait des efforts, on a des gains. Mm-hmm. Hein? Là, par exemple, on a pris 3 livres, 5 livres, on mesure, par exemple, les biceps, ça fonctionne. Et là, on est valorisé par l'entourage, on est valorisé par les collègues avec qui on s'entraîne à la salle d'entraînement. Et là, on veut poursuivre dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on augmente la fréquence des entraînements, la durée des entraînements. Et là, on va modifier aussi les habitudes alimentaires, hein, parce que qu'est-ce qu'on vise? C'est de définir, de sculpter le corps au maximum tout en réduisant la masse de tissu adipeux.
Mm-hmm, mm-hmm.
Donc, sournoisement, en redoublant d'efforts, c'est comme ça que cette obsession-là va s'insérer pour venir prendre presque toute la place, finalement.
On comprend mieux de cette façon-là, Marie-Hélène Dion, quand on parlait tout à l'heure d'anorexie inversée,
mm-hmm.
Cette quête de masse musculaire, prendre du poids, prendre des mm-hmm. livres, c'est vrai que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on pourrait entendre par l'anorexie, c'est-à-dire mm-hmm. de vouloir justement perdre du poids. J'imagine que parce que c'est valorisé par notre société de s'entraîner, de faire du sport, donc qui est très, très lié à la mm-hmm. santé, c'est très facile, c'est très difficile plutôt de dépister la bigorexie, que ce soit pour un spécialiste de la santé ou même les proches.
Tout à fait. Et même pour la personne qui en souffre, hein, d'aller ouais. consulter, pourquoi est-ce que j'irais consulter? J'adopte des comportements sains, parce que c'est sain s'entraîner. Et pour les proches et même les professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement au courant de l'existence de ce nouveau trouble de comportement-là, ils ne seront pas nécessairement alertés. Mais quand on voit, par exemple, notre proche ben, prendre beaucoup de la masse musculaire à en devenir disproportionné, parce que seul, c'est souvent le cas, et puis d'augmenter la fréquence des entraînements en même temps, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend plus là, en mm-hmm. regardant ces comportements-là. Et puis, on est négligé aussi parfois par notre proche qui passe tout son temps à s'entraîner. Donc, c'est là, des fois, que la sonnette s'allume.
J'imagine que la sonnette d'alarme apparaît quand l'entraînement ou le gym prend plus de place que n'importe quoi d'autre.
Que tout le reste, oui. Tout à fait. On peut voir une baisse de rendement scolaire, au travail. Les relations sociales vont en prendre un coup, hein, parce que ça prend du temps, tout cet entraînement-là, planifier toute la nourriture aussi. Donc, déroger à cet horaire-là, il n'y en est pas question. Donc, on refuse des activités sociales avec nos proches également. Donc, ça prend beaucoup de place, effectivement.
Est-ce que déroger à cette discipline ou à cet horaire-là emmène ou entraîne de l'anxiété?
Tout à fait, de l'anxiété, de la culpabilité. Et puis, ça peut faire en sorte de dessiner, mais dans quel état d'esprit je me retrouve actuellement. La balance indique pas le chiffre, l'objectif qu'on s'est fixé. Si le rendement est pas adéquat ou espéré, ça va faire en sorte que ça va saper le moral et puis l'estime de soi, mais elle va en prendre un coup.
Oui. J'imagine que l'une des raisons aussi pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer ou à identifier, c'est que ça se développe tranquillement, tout ça.
Oui, c'est très sournois. Mm-hmm. Donc, on n'est pas nécessairement porté à aller consulter parce que même si je vis une souffrance en lien avec ça, parce que ça prend toute la place de ma vie, reste que c'est quand même un comportement sain. Donc, oui. Ça doit être moi le problème à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a des comportements alimentaires liés à la bigorexie, c'est-à-dire est-ce qu'on se nourrit d'une façon ou d'une autre?
Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller chercher, oui, des nutriments pour se donner de l'énergie, beaucoup de protéines. Certains peuvent manger plusieurs repas par jour. On s'entend, ça peut aller jusqu'à 6 repas par jour.
Okay.
Et puis, ça peut être des suppléments chimiques, de la testostérone, des stéroïdes également pour poursuivre dans cette quête de masse-là.
Donc, la santé en prend un coup là, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas un refus de manger, si je comprends bien.
Non, au contraire, hein, on veut aller chercher le meilleur pour maximiser la performance face à l'entraînement.
Mm-hmm.
Donc, on ne visera pas nécessairement la qualité des aliments, mais davantage leur valeur énergétique par rapport à tout l'entraînement qu'on va faire et qu'on va se mettre en action. Là.
Est-ce que, parce que j'ai l'impression que bien des troubles alimentaires sont liés un à l'autre. Mm-hmm. La dernière fois, quand vous êtes venue, Marie-Hélène, on parlait d'orthorexie,
oui.
Qui est un peu liée à l'anorexie, en fait, du moins, qui peut s'apparenter à un moment donné, les troubles évoluent, puis bon, ça s'entremêle, tout ça.
Mm-hmm.
Est-ce que la bigorexie peut se changer en d'autres troubles alimentaires?
En fait, je vous dirais que ce qui s'apparente le plus dans les troubles de comportement alimentaire, à part la nourriture évidemment, c'est la notion du contrôle.
Mm-hmm.
Donc ça, on va retrouver ça dans chacun des troubles alimentaires. Et puis, à force de restreindre et d'adopter des règles qui vont être très rigides, à ce moment-là, on va observer un dérapage. Puis c'est quand ce dérapage-là se produit que la souffrance va être à son plus haut niveau.
Mm-hmm. On le disait tout à l'heure, ça doit toucher pas mal de sportifs ou des gens qui s'entraînent de façon professionnelle, semi-professionnelle. Oui. À un moment donné, ça amène un certain danger ou encore peut-être plus d'angoisse parce que on s'entraîne de façon professionnelle. Donc, pour le travail, c'est le gagne-pain. Donc, ça devient très, très important pour nous. Comment on fait pour sensibiliser les gens, que ce soit des coachs ou des gens qui travaillent dans le domaine sportif à la bigorexie?
Mais le meilleur conseil qu'on pourrait soumettre à tous les professionnels qui vont travailler avec les sportifs, mais c'est tout d'abord de s'informer. Parce que c'est en connaissant cette réalité-là qu'on peut savoir comment agir, comment interagir avec eux. C'est certain que nous, chez ANEB Québec, on offre des formations destinées aux intervenants. Donc, c'est fréquent de voir des entraîneurs qui vont venir chercher l'information et on les invite d'ailleurs à s'inscrire davantage à ce genre d'information-là. Au-delà de ça, on pourrait leur conseiller de favoriser une approche qui va être davantage dans le respect du corps, dans le respect de la limite, en fait, du corps, de ne pas pousser à l'extrême. Ça peut occasionner des blessures, puis ça peut justement favoriser la performance à l'extrême. Mm-hmm. Et puis aussi, bien, surtout, le plaisir face à l'entraînement. Ouais. Parce que oui, on s'entraîne parce qu'il y a des bienfaits, mais on peut s'entraîner aussi parce qu'il y a du plaisir. Puis c'est comme ça qu'on va trouver un certain équilibre aussi là-dedans.
Oui, et j'imagine aussi d'axer davantage sur le fait que la performance peut également se faire dans le plaisir, c'est-à-dire qu'on peut atteindre un niveau de grande performance, mais dans le plaisir. Et bon, je le répète, là, et le plaisir de s'entraîner et le respect du corps. Pour plus de détails, www.anebquebec.com. Marie-Hélène, je voulais en parler parce que, bon, la santé des hommes, on en parle de plus en plus quand même, mais ça reste quelque chose qui est encore marqué par une certaine forme d'inégalité entre la santé des femmes. Les femmes, c'est bien prouvé et on le sait, consultent, parlent de leur santé, demandent des renseignements également. On parle entre elles, hein, entre amis, entre collègues, avec les sœurs, avec la mère, les cousines, tout ça. Pour les hommes, ça reste encore, même si, je le répète, de moins en moins, ça reste encore un petit peu plus difficile d'aller chercher de l'information, tout ça. Et bien sûr, je vais faire le lien avec santé des hommes et troubles alimentaires. Chez Anneb Québec, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vous consultent, qui vous contactent?
Ben oui, on a une clientèle d'hommes. Je dirais que par rapport à la bigorexie en tant que telle, c'est encore assez très frileux à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas faire sortir vraiment dans les...
sûrement.
Dans les statistiques. Par contre, on rencontre des hommes qui consultent au niveau de l'anorexie, au niveau de la boulimie. Ça, on en voit, là, certainement.
C'est ce qui ressort davantage. En terminant, si l'état d'un de nos proches nous inquiète, l'état ou plutôt le comportement, et puis qu'on est peut-être un petit peu mal à l'aise de lui dire « va consulter », on a l'impression qu'il ne le fera pas de lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais avant tout, ce serait de lui en parler. Ça serait de l'approcher, essayer d'éviter la confrontation parce que qu'est-ce qu'on va se rendre compte d'autant plus que les personnes qui souffrent de bigorexie peuvent avoir un comportement qui est plus irritable. Donc, on les aborde et surtout, on leur partage notre préoccupation. On va leur nommer qu'est-ce qu'on a noté. Mais il me semble que telle activité, t'aimais ça beaucoup, là, tu fréquentes plus tel endroit, ou tu fréquentes plus tes proches, tes amis, il me semble qu'on ne voit plus, qu'est-ce qui se passe? T'sais, de montrer notre préoccupation de cette façon-là, mais on garde le lien avec notre proche, puis on l'invite à nous en parler si jamais il en a envie.
Marie-Hélène Dion, coordonnatrice clinique chez Anneb Québec, merci beaucoup.
Bien, merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Sophie Allant.
Bonjour.
Phénomène peu documenté que la puberté hâtive. En fait, on compte pas d'études au Canada. On en compte chez des chercheurs aux États-Unis et au Danemark. Et ça fait aussi l'objet d'un documentaire de Hélène Choquette. Vous l'avez rencontrée. Oui. D'ailleurs, on peut lire cet article, en fait, on peut lire cette entrevue dans un article intitulé « Puberté hâtive ». C'était publié dans la presse le 7 octobre dernier. Mm-hmm. Ce film-là, qui s'appelle « Grande fille », il soulève quel genre de questions?
Bien, en fait, c'est, ça le dit, puberté hâtive, donc c'est le phénomène, il faut distinguer puberté précoce de puberté hâtive. Puberté précoce, c'est une maladie. Puberté hâtive, c'est vraiment un phénomène qu'on comprend encore mal. Donc, comme vous disiez, les études sont pas tellement nombreuses là-dessus. Et la réalisatrice voulait se pencher sur ce phénomène et surtout sur l'impact que ça a sur les jeunes filles qui le vivent.
Il s'adresse à qui, le film?
Il s'adresse un peu à tout le monde. le but visé, je pense, c'est d'en faire un film éducatif dans les écoles. C'est pour les familles aussi, parce que les parents aussi qui vivent ça un peu avec leurs enfants ne savent pas trop comment faire, comment en parler. Et c'est un des problèmes aussi qui est soulevé par les jeunes filles qui disent « Bon, je me sens un peu isolée parce que mes parents ne comprennent pas trop, ma famille ne savent pas vraiment comment m'aborder. Je suis un enfant, une adolescente. » Donc, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment une visée éducative.
Et en même temps, on se rend compte que cette puberté, ça n'a rien d'anodin, cette puberté hâtive-là. Ça a de réels impacts, que ce soit sur la santé physique, autant que sur l'équilibre psychologique de ces jeunes filles-là.
Oui, c'est ça. La santé physique, on associe une hausse de risque du cancer du sein, diabète de type 2, maladie cardiaque. Bon, c'est une association, rien de cause à effet de prouver encore, je pense. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi, comme je parlais, de l'isolement. C'est aussi un problème avec l'identité. Et puis, ça peut marquer aussi le parcours sexuel parce que, bon, il y a une montée hormonale et tout ça. Donc, quand on est très jeune et puis qu'on expérimente, bien, il y a une certaine vulnérabilité qui vient avec ça. Donc.
Est-ce que ça peut être lié à ce phénomène d'hypersexualisation dont on parle beaucoup?
Je pourrais pas dire, je pense pas, moi. Je pense que la puberté hâtive, c'est complètement autre chose. Puis l'hypersexualisation, en tout cas, c'est pas quelque chose, c'est un sujet sur lequel vous m'amenez qui est un peu contesté aussi. Oui. Mais dans ces cas-là, oui, ça peut induire une sexualité précoce à ce moment-là chez ces jeunes filles.
Même s'il y a un peu d'études, est-ce que l'on connaît un peu les causes?
On les connaît mal. C'est multifactoriel. Donc, on sait que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un impact. Il y a aussi toutes les causes qui peuvent être associées, par exemple, au cancer aussi, comme l'obésité. C'est ça. Donc, c'est vraiment un sujet qui est difficile à cerner, là.
Donc, un court-métrage, en fait, c'est pas un court-métrage, plutôt c'est un long-métrage qui est accessible, c'est ça la beauté de la chose. Vous pouvez aller sur le site de l'ONF.ca, donc c'est possible de le télécharger. Est-ce que le film Sophie Allant, il propose des pistes de solutions, des façons d'aborder le sujet?
En fait, des pistes de solutions à petite échelle, parce que, bon, comme on ne connaît pas les causes, d'une part, si on soupçonne les perturbateurs, c'est de faire attention aux produits qu'on achète, donc produits d'hygiène, certains savons et tout ça. Oui. Mais c'est surtout aussi d'encadrer les jeunes filles qui vivent ça et d'en parler aussi avec les jeunes hommes qui peuvent avoir une relation. Oui. Alors, donc, c'est vraiment d'y aller avec l'éducation sexuelle et je pense que pour l'instant, c'est...
Et de peut-être l'adapter, cette éducation sexuelle-là.
Oui, effectivement, c'est ça. Oui.
Et ça, on remet ça, bien sûr, entre les mains des parents et des enseignants.
Oui, c'est ça.
peut-être qu'avec ce film-là, donc, Grande fille d'Hélène Choquette, et je vous rappelle que vous pouvez le visionner sur onf.ca. Maintenant, un autre article que vous avez publié, toujours dans la presse, le 14 octobre dernier, qui soulève une autre question. Mais ça, c'est un petit peu plus connu. On a plus d'informations sur le sujet. On en parle même depuis quelques années. Est-ce qu'on exagère la nocivité des gras saturés? Donc, à savoir, est-ce que les gras saturés, le cholestérol, a vraiment un effet sur les maladies, la santé cardiovasculaire? Vous avez rencontré des experts, des médecins à cet effet. Là, Pourquoi ils nous disent qu'on devrait revoir ces recommandations nutritionnelles-là?
En fait, vous dites que c'est connu depuis quelques années, mais généralement, là, c'est vraiment, ancré dans la mentalité que les gras saturés, c'est mauvais, mauvais, mauvais.
Oui.
Alors que, c'est des chercheurs de l'Université Laval, il y a deux semaines, qui ont émis un éditorial dans une revue scientifique qui disent « Revoyons les recommandations parce que les preuves scientifiques ne sont pas là.
Mm-hmm. »
Ou ils sont en tout cas, de mauvaise qualité, peu nombreuses et tout ça. Donc, leur approche est de dire, non pas que c'est faux, mais de revoir l'évidence scientifique avant de faire ces recommandations-là. Parce que, dans plusieurs pays, les recommandations tournent autour de 7 % des calories quotidiennes qui devraient être... Mais l'excédent, là, ne faut pas excéder 7 % des calories quotidiennes en gras saturé.
Mm-hmm.
Mais bon, c'est ça. Donc, ça s'est basé sur, des études un peu bâclées au départ. Et puis, c'est resté comme ça au fil des ans, depuis les années 70. Et c'est ça, donc, les dernières études vont en sens un peu inverse.
Ouais.
C'est-à-dire que on prend des grands consommateurs de gras saturé, on les compare aux autres et puis il n'y a pas plus de risques. Les maladies cardiaques ne sont pas plus nombreuses, il n'y a pas plus de décès. Donc, peu à peu, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça.
Oui. En fait, tout à l'heure, quand je disais on a de plus en plus d'études, tout ça, c'est que j'ai l'impression que la communauté scientifique est au fait de ça, en parle de plus en plus, mais le grand public reste vraiment dans ce mythe-là. Il y a comme un décalage entre les deux.
Bien, il y a un décalage, mais il y a un décalage aussi chez les médecins. Donc,
ils ne sont pas tous d'accord là-dessus.
Non, c'est ça. C'est vraiment un sujet très controversé encore. Le cardiologue à qui j'ai parlé, Dr. Martin Junot de l'Institut de cardiologie, il disait que souvent, il y avait des discussions très animées avec ses confrères parce que pour lui, ça fait longtemps que c'est... selon lui, c'est vraiment... c'est connu parmi les scientifiques, donc...
Abordé tant que ça.
C'est ça.
D'ailleurs, cet article vous a été inspiré par un livre, Le grand mythe du cholestérol, des docteurs Sinatra et Baden. Et je vais recevoir Marc Zafran, qui en a signé la préface le 28 octobre prochain. Donc, on pourra en parler davantage. Sophie Allard, on continue de vous lire dans la presse. Et ces articles-là, puberté hâtive et exagère-t-on la nocivité des gras saturés, on peut les lire également dans la presse. On mettra les liens sur notre site. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Kamal Salifou à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve demain pour la dernière de C'est bon pour la santé. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.